Alors voilà, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Les Oreilles Loin du Front. Et on vient d'écouter un extrait de la radio, je pense que c'était France Inter, le 23 août 1996. Cet extrait pour accueillir Emmanuel Terret dans nos studios. Emmanuel Terret qui est anthropologue, mais qui est aussi et surtout pour nous un intellectuel engagé, en particulier aux côtés des sans-papiers. Alors on vous a invité quelques jours après le deuxième tour des élections présidentielles qui voit l'élection de Nicolas Sarkozy. Vous avez été assez actif, enfin on vous a vu apparaître durant cette campagne. Comment vous voyez, est-ce qu'on peut revenir sur cette campagne et sur ces résultats?
Pour commencer par le résultat, le fait dominant, à mon avis, c'est la réunification de la droite et de l'extrême droite. La réunification de la droite et de l'extrême droite, entreprise à l'initiative de Nicolas Sarkozy, qui était décidé à payer le prix nécessaire à cette réunification. Quand on nous raconte que les électeurs du Front National ont été réintégrés dans le cercle républicain, moi, je me demande si ce n'est pas les électeurs républicains qui ont été intégrés dans le cercle du Front National. La mise en avant de l'identité nationale, la réhabilitation de l'OAS, la mise en avant de la nécessité d'éradiquer les migrations illégales et de rendre les migrations légales de plus en plus instables et de plus en plus précaires, le fameux ministère de l'immigration et de l'identité nationale, tout ça, sur le plan idéologique, disons, ce sont de somptueux cadeaux fait à l'idéologie du Front National, et c'était le prix que Sarkozy était prêt à payer pour obtenir cette réunification.
Alors sur cette question-là, pendant des années, quand même, les combats antifascistes et antiracistes avaient... On a eu l'impression, en tout cas, qu'ils avaient réussi un peu à endiguer la contagion de l'extrême droite. Et on a l'impression que tout ça a sauté et que les verrous ont sauté assez vite. Et comment est-ce qu'on peut comprendre ça?
Par l'ambition du pouvoir. Mais il faut, à mon avis, remonter assez loin pour comprendre ce qui vient de se passer. Après tout, la dernière période dans l'histoire de France où la droite était au pouvoir et en liberté, avec la possibilité de s'exprimer, de défendre ses valeurs, c'était la période de Vichy. C'était la période de Vichy pendant laquelle la droite a fiché ses valeurs, ordre, autorité, nation, travail, famille, patrie, etc. Et puis, pendant le demi-siècle qui a suivi, précisément l'héritage de Vichy étant lourd à porter, la droite n'a jamais pu s'exprimer à son gré, tel qu'elle le voulait. Le général de Gaulle était en décalage par rapport à la droite française, à cause de ses positions sur les Américains, à cause de son attitude sur la décolonisation, à cause de son sentiment du rôle de l'État dans l'économie. Et l'ombre du général de Gaulle a pesé assez lourdement, y compris sur ses successeurs. Et puis est venue la période Mitterrand. Chirac était encore quelqu'un qui relevait lointainement de l'ère de Gaulle. Et c'est aussi un des faits marquants de cette campagne, c'est que, à mon avis, la parenthèse gaulliste est maintenant définitivement refermée.
Et puisque vous parlez justement de cette période vichiste, il y a eu un certain nombre de parallèles qui ont commencé à se faire, notamment autour des... quand le réseau Éducation sans frontières a commencé à se mobiliser pour défendre les enfants de parents sans papier. Le parallèle entre la chasse aux sans-papiers aujourd'hui et le sort qui était réservé aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment par l'administration française, a été relevé de plus en plus souvent. Il y a des parents d'élèves ou des professeurs, des instituteurs qui assimilaient les plaques, enfin qui relevaient le fait qu'il y avait des plaques devant des écoles pour commémorer, pour se souvenir en fait de cette période, et que parallèlement, devant ces mêmes écoles aujourd'hui, les enfants étaient aussi traqués qu'à cette époque. Vous avez fait paraître un texte précisément sur cette comparaison, puisqu'elle a été également très décriée quoi, par des personnes qui disaient « elle n'est pas légitime, il faut savoir nuancer ». Quelle est votre position là-dessus?
D'abord, ce parallèle, vous avez bien fait de le dire, il existe dans les têtes des gens qui vivent cette situation. C'est de fait pour la première fois depuis 1942 que la police vient arrêter des enfants dans des écoles. Même pendant la guerre d'Algérie, ça ne s'était pas produit. Donc ça, c'est un fait et le rapprochement est inéluctable. Alors, disons les choses nettement. Bien entendu, prises globalement, les deux situations n'ont pas de rapport. Et la situation de 1942, avec la présence de l'occupant, avec la solution finale, est évidemment infiniment plus tragique, infiniment plus dramatique que la situation d'aujourd'hui. Mais si on cherche très précisément où est la différence entre les deux situations, et cette différence est considérable, hein, je ne prétends pas du tout faire des amalgames, mais si on cherche où est la différence, eh bien on s'aperçoit que pour l'essentiel, précisément, elle tient à la présence des Allemands et elle tient à la présence des nazis. La solution finale, c'est le fait des nazis, c'est eux qui prennent l'initiative, même s'ils trouvent des collaborateurs français. À partir du moment où on se place du point de vue de l'administration française, là, on trouve un certain nombre de similitudes absolument frappantes. Première similitude, le fait de désigner une certaine partie des gens qui vivent dans ce pays comme des indésirables. Ça, c'est la première similitude. Les Juifs, en 1942, les irréguliers, aujourd'hui. Gens qui vivent au milieu de nous, parmi nous, que nous côtoyons tous les jours, eh bien, il y a des indésirables. Deuxième similitude, le fait de considérer que la solution, quand on a des indésirables en face de soi, c'est de les expulser. En 1942, l'expulsion, ça prend la forme de la remise aux Allemands. On les renvoie à l'extérieur de nos frontières et on les donne aux Allemands. Et aujourd'hui, eh bien, on les renvoie, selon les cas, en Tchétchénie, en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, enfin, tout pays, comme chacun sait, la paix règne et les droits de l'homme sont respectés. Bon, à partir du moment où ces deux éléments sont donnés, la troisième similitude, eh bien, c'est la similitude dans la technique policière. Le jour où vous avez décidé que vous alliez faire des expulsions massives, bon, on en est quand même, objectif chiffré du gouvernement, à 25 000 par an. La police n'a pas le choix, c'est un problème technique. Elle fait des rafles, 42 aujourd'hui au métro Belleville. Elle interpelle des familles, elle interpelle des enfants dans les écoles, elle les place en centre de rétention. On construit des centres de rétention de plus en plus grands, où les gens restent de plus en plus longtemps. On en est maintenant à des centres de 300 places où les gens vont passer un mois. C'est-à-dire que du centre, on est en train de passer petit à petit au camp. Donc, de ce point de vue-là, la police n'a qu'à regarder dans ses archives pour savoir comment faire. Elle a une longue expérience. 42, la guerre d'Algérie, elle sait faire. Et ce sont ces techniques que nous voyons mettre en œuvre. Et puis la quatrième similitude, bien entendu, tout cela soulève des protestations. Soulève des protestations de la part de toute une série de gens qui s'indignent pour des raisons humaines, morales, politiques, et qui protestent. Bon, c'était vrai en 1942, c'est vrai aujourd'hui. Alors par rapport à ces protestations, l'attitude du gouvernement est toujours la même. C'est de diviser, c'est-à-dire de dire on va sauver un certain nombre. En 1942, l'idée c'était qu'on sauvait les Juifs français et qu'on sacrifiait les Juifs étrangers. Aujourd'hui, voir ce qui s'est passé au moment de la régularisation des familles au mois de juin de l'année dernière, à partir du mois de juin, eh bien on nous a dit « Ah, les familles qui sont bien intégrées en France, alors on va les mettre de côté, et puis les autres, on va les jeter ». Ça a donné 6 000 d'un côté, 25 000 de l'autre. Bon, en réalité, il n'y a aucune différence réelle entre les 6 000 d'un côté et les 25 000 autres, aucune. Mais c'était une manière pour les autorités de faire la part du feu, comme elles le font toujours dans ce cas-là, pour essayer de désarmer le mouvement de protestation. Alors, encore une fois, il n'y a pas de rapport entre les deux situations, parce que l'expulsion, même dans des pays où les situations sont très difficiles, ce n'est pas la même chose que l'extermination. Et nous le savons tous. Ce n'est pas la peine de venir nous reprocher quelques confusions que ce soit en la matière. Mais si on regarde l'attitude de l'administration française, eh bien, elle est très semblable. Et moi, je peux dire qu'une longue fréquentation de l'administration et de la justice française en matière de sans-papiers m'a fait beaucoup mieux comprendre ce qui s'était passé en 1942. Les gendarmes qui arrêtaient les enfants juifs en 1942 pour les emmener à Pithiviers ou à Beaune-la-Rolande en attendant de les remettre aux Allemands, je suis convaincu que le gendarme de base, il ne savait pas ce qui allait arriver à ses enfants. Mais non seulement il ne savait pas, mais surtout, et c'est l'essentiel, il ne voulait pas le savoir. Il avait des ordres, il les exécutait, un point c'est tout. Et nous avons exactement la même attitude aujourd'hui. On renvoie des enfants ou des familles en Tchétchénie. On dit, mais quand même, vous savez ce qui se passe en Tchétchénie? Ah, c'est pas notre problème. Nous, on a des ordres, on le fait. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe aussi dans un certain nombre de cas pour la magistrature, quand les magistrats sont appelés le juge des libertés, etc. Et là aussi, c'est une similitude frappante.
Est-ce qu'on peut trouver aussi un élément de comparaison dans la réaction de la population à cette répression accrue contre une partie de la population? Et je pense notamment en fait à la notion que développe Jérôme Valluy sur l'asile sociétal par opposition aux formes d'asile qui devraient normalement, légalement, juridiquement relever de l'État.
Ben, sur ce point, je voudrais dire deux choses. Bon, d'abord, il faut bien entendu mentionner RESF et l'action formidable qui a été développée par RESF et qui a sauvé l'honneur, si je puis dire, sauvé l'honneur, de la population française en la matière. Bon, à l'heure actuelle, RESF a mis à l'abri quelques dizaines de familles. Donc RESF assume ce qu'il faut assumer à l'heure actuelle, c'est la désobéissance civile. Et de ce point de vue-là, les choses sont quand même réconfortantes. La mobilisation importante qui a eu lieu dans un certain nombre de villes, de quartiers, de villages sur ce problème est une chose réconfortante. Alors, en ce qui concerne l'autre point que vous avez soulevé, effectivement, l'asile sociétal doit prendre la relève d'un asile qui est d'un droit d'asile qui est proclamé par la Constitution française et par la législation française et qui en réalité devient une espèce de coquille vide compte tenu du fait qu'il est de plus en plus difficile non seulement d'obtenir l'asile mais même de déposer une demande d'asile. Et M. Sarkozy, au cours de sa campagne, s'est vanté du fait que dans un monde qui est celui que nous connaissons, eh bien, il avait réussi à diviser par deux le nombre des demandes d'asile. Ça ne reflète pas, comme vous le savez bien, une baisse correspondante de la persécution à travers le monde.
Vous évoquiez RESF, le réseau Éducation sans frontières. Vous avez pendant plus de 10 ans maintenant suivi et animé une partie du mouvement des sans-papiers. J'ai l'impression que on n'est pas dans les mêmes dynamiques. J'ai l'impression que les RESF, il y a un côté voisinage, un côté beaucoup plus personnel dans les mobilisations. Comment est-ce que vous voyez à la fois l'émergence de ce mouvement-là et l'articulation avec le mouvement des sans-papiers qui continue à exister ?
Mais je pense sur ce point que ce qui s'est passé avec RESF est quelque chose de très important parce que toute une série de gens qui n'étaient pas des militants au départ ont été sensibilisés au problème et sont entrés directement dans l'action et dans la pratique, en allant assez loin, puisqu'on a évoqué tout à l'heure un certain nombre de faits de désobéissance civile. Et ces gens qui, au départ, n'étaient pas vraiment politisés, ne mettaient pas en cause la législation en général, mais parce qu'ils ont eu sous les yeux des arrestations d'enfants et la menace d'expulsion de leurs parents, ils ont réagi. Et ils ont réagi à partir de cette réaction, petit à petit, ils ont compris que ce qui les avait indignés, c'était l'effet d'une législation. Et aujourd'hui, RESF dit tout à fait explicitement que le réseau est pour la régularisation de l'ensemble des sans-papiers. Et donc les critiques qui ont été faites à un moment donné sur l'apolitisme, sur le côté exclusivement humanitaire et personnel, mais c'est un point de départ. Mais ce point de départ a été largement dépassé par tous les gens qui s'y sont investis. Et après tout, comme on disait autrefois, c'est avec des civils qu'on fait des militaires, hein.
Alors, on va peut-être revenir. On a profité pour évoquer les sans-papiers. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur la manière dont vous voyez la situation des étrangers privés de titre de séjour aujourd'hui en France, à la veille de la prise du pouvoir par l'ancien ministre de l'Intérieur?
Écoutez, l'ancien ministre de l'Intérieur, devenu président de la République, est l'auteur et le promoteur d'une loi qu'il a fait passer l'année dernière et dont il s'apprête à aggraver un certain nombre de dispositions. Alors, je pense que c'est intéressant de rappeler quand même les principaux éléments de cette loi. Alors d'une part, cette loi aggrave considérablement la chasse aux sans-papiers, puisqu'elle supprime la règle qui voulait que, à condition qu'on présente les preuves de séjour requises, ce qui n'était pas facile, enfin, au bout de 10 ans de séjour, un sans-papier pouvait prétendre à sa régularisation. Désormais, cette règle est supprimée et toute régularisation dépend de l'arbitraire préfectoral. Et puis, et c'est là que cette loi représente un tournant par rapport aux lois du passé, parce que les lois du passé, c'était, on donnait des tours de vis, on serrait les boulons, etc. Mais là, il y a un tournant, parce que maintenant, elle s'en prend très directement à l'immigration légale, à l'immigration régulière, pour la déstabiliser. À travers un certain nombre de dispositions, celles qui concernent leur groupement familial. Leur groupement familial, maintenant, va être subordonné à l'obtention non seulement des ressources du travail, mais des ressources du travail stable. Ça veut dire que quelqu'un qui a un CDD, à mon avis, obtiendra très difficilement son regroupement familial. Le CDI deviendra une condition. La condition de logement est maintenant formulée de la façon suivante. Il faut qu'il ait un logement de nature à faciliter l'intégration de sa famille dans la société française. Bon, qui va en juger? Selon quels critères? Arbitraire. Arbitraire de l'OMI ou arbitraire des préfectures. De la même façon, et ça c'est l'aggravation qui est programmée pour le mois de juillet, on va maintenant demander aux intéressés d'apprendre le français avant d'arriver en France. Bon, dans un certain nombre de pays, cet apprentissage est très problématique, mais peu importe à notre ministre. Alors, l'attitude en ce qui concerne le mariage, qui est un droit constitutionnel, elle est la même. On ne peut pas supprimer leur groupement familial purement et simplement, et on ne peut pas supprimer le droit au mariage purement et simplement, parce qu'ils sont inscrits dans des textes internationaux auxquels la France a donné son accord, notamment la Convention européenne des droits de l'homme. Mais ce que fait le ministre, c'est d'accumuler tellement de conditions restrictives et de faire de l'obtention, de l'exercice de ce droit un tel parcours du combattant que finalement le droit devient une coquille vide. Puis le dernier point, en ce qui concerne la législation, c'est bien entendu l'introduction de la fameuse condition d'intégration républicaine. Condition d'intégration républicaine, qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne sait ce que c'est. Personne ne sait qui va juger de l'intégration républicaine. Personne ne connaît les critères. Autrement dit, en réalité, c'est la porte grande ouverte à l'arbitraire préfectoral. Et alors, ce qui est grave, c'est que désormais, l'attribution et le renouvellement des cartes de résident, des cartes de 10 ans, vont être soumises, subordonnées à cette condition d'intégration républicaine. Il faut se rappeler que la carte de 10 ans, c'était quand même la grande conquête du mouvement de l'émigration dans les années 80, parce qu'elle donnait un minimum de stabilité, de sécurité aux gens qui l'obtenaient. Et bien entendu, elle a suscité dès cette époque-là beaucoup d'hostilité, et toute une série de tentatives ont été faites pour la soumettre à des conditions de plus en plus difficiles. Mais là, il y a un pas important qui est franchi, parce qu'à travers cette condition d'intégration républicaine, c'est vraiment l'arbitraire des préfets qui va jouer. Alors, ce que nous savons des projets de M. Sarkozy, c'est d'aggraver, il aura fait finalement 3 lois sur l'immigration en 4 ans, d'aggraver cette loi avec cette introduction de l'exigence d'apprentissage du français. Avant l'arrivée, bientôt, on exigera que les immigrés qui viennent en France soient intégrés à la société française avant d'avoir posé le pied sur notre territoire, ce qui est d'une logique parfaite. Alors ça, c'est la liste.
On va s'aimer à toucher le ciel, se séparer, à brûler nos ailes, se retrouver comme les hirondelles. On va s'aimer tellement tu es belle. On va jeter les clés de la maison. On va rêver à d'autres saisons. On va quitter ces murs de prison. On va s'aimer. Sur une étoile ou sur un oreiller.
voilà, on va brutalement abréger vos souffrances et on va se retrouver sur le plateau de Fréquence Paris Pluriel dans l'émission Les Oreilles Loin du Front. On est toujours avec Emmanuel Terret et on parle de la situation aujourd'hui des sans-papiers et autant on a décrit un petit peu les politiques que mettait en place le gouvernement auquel participait Sarkozy en tant que ministre de l'Intérieur, autant vous vouliez également évoquer la question des pratiques. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui concrètement dans la répression, la chasse aux sans-papiers ?
On a évoqué la loi tout à l'heure, mais il faut aussi évoquer les pratiques. Alors les pratiques, elles sont d'abord dominées par la multiplication des rafles. Il n'y a pas d'autre terme. Lisez le rapport de la CIMAD de l'année 2005 qui fait l'inventaire de ces rafles. Aujourd'hui, au métro Belleville, par exemple, c'est pratiquement toutes les semaines qu'il y a des rafles ciblées destinées aux sans-papiers asiatiques. Il faut y revenir, l'arrestation des enfants dans les écoles. Parce qu'encore une fois, c'est la première fois depuis 1942 que ça se produit. Il faut parler des centres de rétention de plus en plus grands, où on reste de plus en plus longtemps et qui sont pourtant de plus en plus surchargés. Et puis, bon, pour ne pas être trop long, mais il faut quand même mentionner ce merveilleux document qu'est la circulaire de février 2006. C'est une circulaire destinée aux forces de l'ordre et aux préfectures qui explique dans quelles conditions on peut interpeller les sans-papiers. Alors il y a une première technique, c'est la convocation piège à la préfecture. On convoque un sans-papier pour examen de son dossier et une fois qu'il est arrivé, on l'interpelle. Et la circulaire dit... Il faut simplement que, pour que ça marche devant les tribunaux, vous laissez suffisamment de temps entre l'heure qui est portée sur la convocation et l'interpellation pour qu'ensuite nous puissions dire devant le tribunal que nous avons pris le temps d'examiner son dossier. Personne ne saura si le dossier a été vraiment examiné. Il s'agit juste de laisser une heure à une heure et demie pour que l'arrestation soit possible. Et puis, il y a une deuxième partie de la circulaire qui explique qu'on ne peut pas arrêter un sans-papier à son domicile, mais qu'est-ce qu'on doit considérer comme un domicile ou non ? Alors il y a un inventaire à la Prévert, où les locaux d'association, bien entendu, ne sont pas des domiciles, les véhicules, la chose se discute, et puis le summum du texte est atteint quand le cas des hôpitaux est examiné. Alors là, la circulaire de M. Sarkozy nous explique que la chambre des malades peut être considérée comme un domicile, mais que par contre les couloirs des hôpitaux et mieux encore les blocs opératoires, eux, ne sont pas considérés comme des domiciles et par conséquent, on peut interpeller les personnes en situation irrégulière qui s'y trouveraient. Alors, cette circulaire a quand même provoqué une certaine émotion dans le personnel hospitalier et à la suite de ça, paraît-il, M. Sarkozy aurait envoyé un télégramme au préfet en disant que... parce que les préfets ont des objectifs chiffrés, alors il faut qu'ils les remplissent, leur carrière en dépend. En leur disant que quand même, l'arrestation dans les blocs opératoires, il ne fallait pas prendre ça au pied de la lettre et qu'il fallait que les cas soient le moins nombreux possible parce que ça risquait quand même de poser des problèmes avec le personnel hospitalier. Enfin, c'est dire où on en est dans cette histoire.
Mais l'outrance de cette circulaire, elle a été... jusqu'au point où sa légalité a même été contestée par des associations comme Logistique qui ont porté plainte auprès du, je ne sais plus si c'est le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État ou les deux, vous nous direz, pour dire que, en s'appuyant sur le fait que l'administration ne pouvait pas mentir, c'est un des termes juridiques qu'ils emploient, et que donc les convocations pièges, par exemple, étaient des pratiques parfaitement illégales.
À ma connaissance, mais je ne suis pas juriste, les deux instances qui ont été saisies, c'est d'un côté la Cour de cassation et de l'autre le Conseil d'État. Et il se trouve qu'à l'heure actuelle, ils ont rendu des avis contradictoires. C'est-à-dire, en ce qui concerne les convocations pièges, la Cour de cassation a dit que le juge, étant juge des libertés, ne pouvait absolument pas accepter les convocations pièges et cette attitude, cynique et hypocrite de l'administration. En revanche, le Conseil d'État... semble-t-il, n'a pas vu à redire à ce type de pratique. Alors on est dans une espèce de situation juridique mouvante et il faudra bien qu'à un moment donné, le législateur finisse par trancher. Espérons que le résultat des élections législatives sera tel que le législateur sarkozien n'aura pas toute latitude pour trancher sur ce problème.
Et puis si on veut finir de dresser le triste tableau du sort réservé aux étrangers en France, il faut peut-être dire deux mots des reculs successifs qu'il y a pu y avoir sur la question du droit d'asile en France, qui aujourd'hui est réduit à peau de chagrin.
Bah, je ne suis pas un spécialiste du droit d'asile, parce que ce n'est pas mon domaine d'intervention. Ce que je sais, c'est que l'offensive contre le droit d'asile s'est produite en un premier temps, mais qui est déjà ancien, au niveau de l'attribution du droit d'asile, c'est-à-dire que les demandes d'asile acceptées ont été de plus en plus rares, et pratiquement l'OFPRA n'accorde plus l'asile, seule la commission de recours, cassant les décisions de l'OFPRA, finit par accorder quelques demandes d'asile. Mais la pratique a été encore plus perverse, parce que c'est en réalité le dépôt de la demande d'asile qui maintenant est entravé, de sorte que les réfugiés qui arrivent sur notre territoire sont soumis à un certain nombre de conditions en termes de délai, en termes de traduction des documents en français, traduction bien entendu à leur charge, onéreuse, en termes de... ils tombent sous la célèbre liste des pays sûrs. Et il est marquant que M. Sarkozy s'est réservé la possibilité de maintenir la liste nationale des pays sûrs. C'est-à-dire qu'un pays sûr, c'est un pays qui est considéré comme en paix, démocratique, etc. Et que, par conséquent, les gens qui viennent de ces pays-là sont considérés d'emblée comme n'ayant pas qualité pour demander l'asile politique. Alors la liste des pays sûrs, c'est un document étonnant, parce que la Côte d'Ivoire fait partie des pays sûrs, la Russie fait partie des pays sûrs, y compris dans sa partie tchétchène. Et les gens, en principe, quand ils viennent de ces pays-là, ils sont écartés. Alors l'Europe avait établi une liste de pays sûrs, mais M. Sarkozy a considéré qu'elle n'était pas assez généreuse, et il a réintroduit sur cette liste un certain nombre d'autres pays. Bon, c'est une des façons de procéder dans cette restriction de l'asile. Ben, un autre aspect sur lequel je voudrais dire un mot, parce qu'il me paraît extrêmement important. Alors, à l'échelle européenne, c'est la volonté de sous-traiter le contrôle des frontières à un certain nombre des États de la périphérie. Peut-être est-ce que vous avez vu un documentaire portant sur l'Ukraine. Il y a maintenant de véritables camps en Ukraine qui interceptent les migrants venus d'Asie, venus d'Afghanistan, venus du Pakistan, venus d'Irak. Et les gens séjournent dans ces camps plusieurs mois ou plusieurs années. Les mêmes camps sont en cours d'édification au Maroc. Et le Maroc reçoit des subventions de l'Union européenne à cette fin. Et il y a une négociation qui est en cours. Là aussi, c'est le comble. Avec le colonel Kadhafi, défenseur patenté des droits de l'homme, comme on sait, pour qu'il construise des camps sur son territoire afin d'intercepter les migrants en provenance de l'Afrique subsaharienne. Tout cela, bien entendu, contre subventions sonnantes et trébuchantes.
Alors, en face de cette situation que vous venez de décrire, est-ce qu'on peut dire deux mots sur qu'est-ce qu'il y a en face ? Parce qu'on a connu un mouvement des sans-papiers et de solidarité avec les sans-papiers relativement fort suite à Saint-Bernard, et puis avec un certain nombre de rebondissements durant des années. On a l'impression que... L'espace politique et le nombre de militants tend à se réduire autour de ces questions-là. Est-ce que vous partagez cette vision-là ?
Le mouvement des sans-papiers a certainement connu des difficultés importantes pendant cette longue période. Au moment de Saint-Bernard, il avait le bénéfice de la nouveauté. Et par conséquent, il intéressait les médias. Malheureusement, mais c'est le rythme de cette société médiatique, maintenant le mouvement des sans-papiers est un peu entré dans la routine. Et donc pour les gens des médias, une manifestation, une grève de la faim, une occupation, c'est bon pour la quatrième page dernière colonne ou bien pour trois minutes, dans le journal local. Ça n'a plus la même puissance de mobilisation que ça avait. Puis il y a eu un certain nombre de difficultés propres au mouvement des sans-papiers, qu'il ne faut pas passer sous silence. Et il a eu beaucoup de mal à garder son unité. Il y a à l'heure actuelle une espèce de tendance, si vous voulez, à former des collectifs, ethniques ou nationaux, qui est un peu regrettable, parce que une des forces du mouvement des sans-papiers des années 96-97, c'était que tous les sans-papiers, quelle que soit leur origine, étaient regroupés, en tout cas dans un certain nombre de collectifs. À l'heure actuelle, par exemple, les sans-papiers chinois sont de leur côté et ne sont plus guère associés au mouvement, ce qui est dommage parce qu'ils représentent une force importante. Il en est même des sans-papiers turcs. Et puis alors je crois que les soutiens des sans-papiers ont aussi des responsabilités. Je le dis en guise d'autocritique. Et il y a des choses que nous n'avons pas su faire. Et en particulier, je pense que nous avons cru trop facilement que une grande fraction de la population était d'avance d'accord avec nous sur le sort indigne réservé aux sans-papiers. Et du coup, nous n'avons pas répondu à ces questions. Moi, j'ai fait beaucoup de réunions en province, et des réunions qui, comment dire, attiraient nécessairement des sympathisants. Bon, il y a peu d'adversaires résolus dans ces réunions. S'il y en a, ça se passe mal, la discussion n'est pas possible, et donc elle s'arrête. Mais la plupart du temps, ce sont des sympathisants. Mais il y a toujours deux questions qui ont été posées. Première question... mais monsieur, si on fait ce que vous dites, régularisation des sans-papiers, ça va être l'appel d'air, ça va être le déferlement, ça va être l'invasion. Bon, on peut répondre à cette question, mais encore faut-il prendre la peine de l'écouter et d'y répondre, parce que tant qu'on ne répond pas à cette question, eh bien, les gens continuent d'être sympathisants, mais ils ne s'engagent pas, parce qu'ils trouvent que l'avenir est incertain. Deuxième question, monsieur, tout ce que les critiques que vous apportez aux lois existantes, elles sont très justes, et on est d'accord avec vous, mais vous, si vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous feriez? Et quelles sont vos propositions positives? Là aussi, pendant des années, nous n'avons pas répondu à cette question. Et du coup, la mobilisation des citoyens français dans cette affaire a été largement cantonnée à un cercle militant assez étroit. Militants des associations, militants d'un certain nombre d'organisations de gauche et d'extrême-gauche. Bon, je pense au PC, au Vert, à la LCR, etc. Mais ça n'a pas été beaucoup plus loin. D'où d'ailleurs l'espèce de lumière naissante qu'a représenté RESF, où pour la première fois depuis très longtemps, l'immobilisation dépassait ses frontières militantes.
Ben alors justement, répondons au moins à ces deux objections, ou en tout cas à ces deux interrogations sur la question de l'invasion. Voilà. Alors si on ouvre nos frontières, si on régularise, toute la misère du monde viendra en France. C'est l'objection classique. Comment répondre à ça?
Ben, je crois que on peut montrer qu'elle repose sur une profonde erreur d'analyse, parce qu'elle suppose que le moteur décisif de la migration, c'est la pauvreté au sens économique du terme, et que par conséquent, les gens des pays pauvres, qui ont un écart important avec les pays riches, eh bien, ont tendance à déferler chez nous. Alors, bien entendu, la pauvreté joue un rôle, mais en réalité, si c'était la pauvreté qui était le seul facteur et le facteur décisif, on verrait les gens venir de tous les pays pauvres, et ce seraient les plus pauvres qui viendraient les premiers. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on observe. On observe d'abord des gens qui viennent d'un certain nombre de régions bien déterminées, bien particulières, qui ont des traditions de migration. Et puis, par ailleurs, on s'aperçoit que ce ne sont pas du tout les plus pauvres qui émigrent. Alors peut-être qu'ils ne peuvent pas, mais les gens qui viennent, ce sont des gens qui ont un minimum de ressources à la fois matérielles pour payer le voyage, parce que ça coûte très cher, et puis de ressources culturelles, intellectuelles, grâce auxquelles ils pensent qu'ils vont réussir à faire carrière et à obtenir une bonne situation dans les pays où ils arrivent. Vous savez, il faut revenir sur des chiffres qui sont quand même intéressants. Bon, dans l'horrible affaire de Ceuta et de Melilla, mais il y a un chiffre qui n'a pas été quand même assez souligné. Le gouvernement marocain lui-même a dit qu'il y avait 30 000 personnes derrière les barrières de Ceuta et de Melilla. Mais 30 000 personnes à l'échelle de l'Union européenne, ça représente 5 000 pour les grands pays et 2 à 3 000 pour les petits pays à accueillir. Je veux dire, c'est rien. C'est absolument dérisoire comme chiffre. Bon, de la même façon, on nous dit, et c'est évidemment un drame horrible, je crois 23 000 personnes sont arrivées aux Canaries, et sans parler de toutes celles qui se sont noyées dans le passage, mais 23 000 personnes sont arrivées aux Canaries depuis le début de l'année. Même affirmation, 23 000 personnes, c'est rien du tout. Statistiquement parlant, le solde migratoire de la France est bien supérieur à ça, puisqu'il est de à peu près 100 000 personnes chaque année. Et c'est de la même façon pour les autres pays. Donc, il n'y a pas de raz-de-marée, en réalité. Il y a un mouvement lent, régulier, de migration, mais dont le facteur essentiel n'est pas la pauvreté au sens économique du terme, à mon sens, c'est la désespérance. La désespérance, c'est-à-dire le fait de se trouver dans des situations complètement verrouillées, dans des pays où tout est bloqué, où la corruption fonctionne à plein, et où par conséquent l'individu n'a aucune chance de s'en tirer, sauf s'il a des relations très haut placées à la présidence ou ailleurs. L'individu n'a aucune chance de s'en tirer, il n'a aucun avenir devant lui, et devant cette perspective, ben, c'est une décision rationnelle que de s'en aller. Et nous ferions la même chose. Moi, il faut bien dire qu'un certain nombre de ces sociétés verrouillées, de ces états d'oppression et de corruption, c'est nous qui les maintenons au pouvoir. Ce sont les meilleurs amis de la France à l'ONU. Et ailleurs. Et il n'y a qu'à regarder en Afrique francophone pour être fixé sur ce qui s'y passe. Alors, de ce point de vue-là, en réalité, c'est la politique africaine de la France qui alimente copieusement le courant migratoire en direction de la France. Et là, si on voulait déjà changer un peu les choses, eh bien, il faudrait commencer par là.
Un de vos autres arguments, je me suis de vous citer, mais c'est vous parlez de la situation qu'il y avait jusqu'en 1974 où les frontières n'étaient pas fermées. Est-ce qu'on peut évoquer ça? Parce qu'il y a eu aussi des périodes historiques où les frontières étaient ouvertes et où on n'a pas connu...
Ah ben bien entendu, jusqu'à 1974, les frontières de la France étaient ouvertes vis-à-vis en particulier de son ancien empire colonial, et étaient ouvertes vis-à-vis des départements français d'Algérie, et qui étaient à ce moment-là toujours des départements français. Eh bien les gens n'ont pas déferlé sur la France à ce moment-là. Compte tenu de mon âge canonique, je me souviens de l'époque où les grandes entreprises automobiles de la région parisienne et de Montbéliard d'ailleurs également, enfin Simca, Renault, Citroën, etc., envoyaient des missions de racolage, il n'y a pas d'autre terme, dans l'Aurès, en Kabylie, dans l'Atlas marocain, pour aller chercher des gens qui, autrement dit, ne déferlaient pas d'eux-mêmes puisqu'il fallait aller les chercher. Et quand ils arrivaient, on leur donnait des papiers 2 mois après leur arrivée et 2 mois après qu'ils aient commencé à travailler sur les chaînes de ces entreprises. Quand le Sahel a été dévasté par la sécheresse et par la famine en 1971, les frontières étaient encore ouvertes et les gens du Sahel auraient pu déferler sur notre territoire. Ils ne l'ont pas fait. Ils se sont réfugiés sur les zones voisines en espérant pouvoir revenir un jour sur leur terre. Quand l'Espagne, le Portugal et la Grèce sont entrés dans le marché commun, à ce moment-là, l'écart des niveaux de vie était très très considérable et on aurait pu assister là aussi à un déferlement des Grecs et des Portugais en particulier. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est au contraire le moment où les Portugais ont commencé à repartir chez eux, parce que désormais ils pouvaient circuler librement et c'était ça qu'ils souhaitaient. Donc, bien entendu, on peut dire que la mondialisation a progressé depuis cette époque-là, que les transports sont moins chers, etc. Mais le monde de cette époque-là n'était pas beaucoup plus riche qu'aujourd'hui, hein. Et pourtant, il n'y a pas eu de déferlement. Alors, le déferlement, en réalité, c'est un fantasme. C'est un fantasme cultivé par nos dirigeants pour justifier leur politique de fermeture.
Mais justement, Nicolas Sarkozy, quand il était ministre de l'Intérieur et dans ses différents discours d'intention quand il se présentait à la présidence de la République, s'appuie énormément en fait sur cette inquiétude derrière laquelle, il joue sur cette conception de l'étranger qui va venir parasiter l'économie, qui va venir ponctionner des acquis sociaux des Français et qui ne va pas travailler. Quelle est la réalité, puisque vous avez quand même consacré un bouquin à cette question, quelle est la réalité du travail des sans-papiers et plus généralement des étrangers en France ?
Ben attendez, procédons par étapes. Sur l'argument dont vous avez parlé, les sans-papiers ne peuvent pas venir en période de chômage, ne peuvent pas être régularisés, les immigrés ne peuvent pas venir en période de chômage, l'immigration met en cause les acquis sociaux, etc. Tout ça, encore une fois, ne tient pas debout. Il faut quand même être un minimum keynésien. Keynes a démontré, personne ne l'a remis en cause depuis, que le travail n'était pas un bloc en quelque sorte figé et que plus il y avait de consommateurs, plus il y avait de producteurs, plus il y avait de cotisants, eh bien plus il y avait de croissance. Et de ce point de vue-là, nous avons un exemple très frappant sous les yeux et qui n'est pas loin, c'est l'Espagne. Comme vous le savez, L'Espagne a accueilli un très grand nombre de migrants depuis quelques années, a régularisé quelque chose comme 800 000 migrants. La croissance espagnole à l'heure actuelle est le double de la croissance française. Le chômage a été réduit de moitié en Espagne et il y a une étude du gouvernement espagnol qui nous dit que sur cette croissance de 3,5%, eh bien, la moitié environ doit être attribuée à la présence de la migration. Donc l'Espagne ne s'est pas du tout ruinée, n'a pas du tout multiplié son chômage en accueillant et en régularisant des immigrés. Tout au contraire. Il faut quand même se rappeler que le pays d'Europe dans lequel il y a le plus d'étrangers est aussi un de ceux dans lequel il y a le moins de chômeurs. Et là encore, pour aller chercher loin, la Suisse compte 17% d'étrangers dans sa population et elle compte 5% de chômeurs. Donc en réalité, ces arguments consiste à dire « mais il y a un seul marché du travail en France et par conséquent, ce que les uns ont, les autres ne l'ont pas, ils se font concurrence, etc. » Mais chacun sait que ça n'est pas vrai. Le marché du travail en France, il est extrêmement cloisonné. Et il y a des secteurs dans lesquels vous rencontrerez massivement les travailleurs migrants, tout simplement parce que c'est les secteurs dans lesquels les Français ne veulent pas aller. C'est le bâtiment, c'est les chaînes automobiles, c'est l'ensemble d'un certain nombre d'industries de services comme le nettoyage, etc. Eh bien, là, il y a un marché du travail particulier qui est largement réservé aux migrants, et les migrants qui sont là-dessus ne font aucune concurrence aux Français parce que les Français ne veulent pas s'y investir.
Vous avez même utilisé le terme de à propos des sans-papiers qui sont employés au noir, ou enfin le plus souvent au noir, vous avez parlé de délocalisation à l'intérieur de la France.
Oui, c'est effectivement parce que on est quand même obligé de se demander ce que signifie par exemple le fait que le ministère de l'Intérieur évalue à 400 000 personnes environ le nombre des personnes en situation irrégulière en France. Alors, comme elles sont en situation irrégulière, les statistiques sont difficiles à faire. Mais ce qui est frappant, c'est que cette évaluation est la même depuis 25 ans. Elle n'a pas bougé depuis 25 ans. Alors qu'il y a eu deux régularisations, qu'on a expulsé toute une série de gens, etc. Et on est toujours à ce niveau de 400 000. Ça veut dire qu'il y a un volant qui est reconstitué si jamais il baisse. Bon. Pourquoi il y a ce volant ? Parce que dans un certain nombre de secteurs, on sait très bien que le travail est assuré dans une certaine mesure, et parfois dans une large mesure, par des sans-papiers. Alors c'est là que j'ai parlé de délocalisation sur place. Parce que tout le monde sait ce que c'est qu'une délocalisation. Bon, des entreprises qui ont des charges de main-d'œuvre importantes considèrent que ces charges de main-d'œuvre limitent leurs profits. Et par conséquent, elles exportent leurs ateliers, leur production dans des pays où la main-d'œuvre coûte beaucoup moins cher, est beaucoup plus docile, n'a pas du tout les mêmes droits, et c'est autant de plus pour les profits de ces employeurs. On connaît ce qui s'est passé pour l'industrie textile en France, par exemple, c'est un bon exemple. Mais il y a un certain nombre d'entreprises qui physiquement ne peuvent pas délocaliser. Le bâtiment ne peut pas délocaliser parce que le chantier doit se trouver là où on aura besoin de l'immeuble. La restauration ne peut pas délocaliser parce que le restaurant, il doit être là où sont les clients. Et vous avez des industries qui pourraient délocaliser, mais quand les délais entre la commande et la production doivent être très courts, de manière à suivre les fluctuations de la mode, c'est le cas de la confection, eh bien, il y a quand même avantage à garder la production sur place. Alors, le travail des étrangers en situation irrégulière permet précisément à ces entreprises, qui physiquement ne peuvent pas délocaliser, de trouver quand même sur place, à domicile, dans nos quartiers, une main-d'œuvre qui est dans la même condition, dans les mêmes conditions de travail, de salaire, etc., que la main-d'œuvre du tiers-monde. Bon, comme vous le savez, les sans-papiers sont payés à la pièce et il leur faut travailler 6 jours sur 7 et 12 heures par jour pour obtenir des rémunérations qui équivalent, en gros, selon les cas, à la moitié du SMIC. Là, je vous parle de la confection, qui est le secteur sur lequel j'ai le plus travaillé. Ils n'ont bien entendu aucune espèce de protection, aucune espèce de droit. Et donc, ils sont vraiment dans les mêmes conditions qu'une main-d'œuvre dans un pays du tiers-monde. Par conséquent, il y a un certain nombre de secteurs qui font des profits non négligeables sur des cas. Bon, prenons le bâtiment. Alors bien entendu, ce n'est pas les grands groupes du bâtiment qui prennent le risque d'employer des irréguliers. Par contre, les sous-traitants du bâtiment, soumis d'ailleurs eux-mêmes à la pression des grands groupes pour réduire leurs marges et leurs salaires, font massivement recours au travail illégal. C'est pour ça qu'il y a une grande hypocrisie dans tout ça. Parce que à 25 000 expulsions par an, eh bien, chacune de ces 25 000 expulsions est un drame pour ceux qui la subissent. Ça, c'est très clair. Mais on pourrait dire, alors est-ce que c'est une intention ? En tout cas, c'est un effet. 25 000 expulsions par an sur une population de 400 000 personnes, eh bien, c'est suffisant pour maintenir les gens dans la peur. Et chacun sait bien que la peur est une dimension permanente de l'existence des sans-papiers. Mais ce n'est pas suffisant pour éradiquer l'immigration illégale. Il ne s'agit pas de l'éradiquer, puisqu'au contraire, elle fait vivre un certain nombre de secteurs qui sont ceux que j'ai cités. Et ces secteurs, prenez par exemple la confection, ben c'est l'atelier qui est tenu par des sans-papiers et où la production est assurée par eux. Mais la vente, la distribution, etc., ça, ce sont soit des gens en situation régulière, soit même, dans beaucoup de cas, des Français. Les magasins de fringues, ils sont tenus par des Français et ils réalisent des profits considérables. De sorte que quand on nous dit on va éradiquer l'immigration illégale, ce n'est pas du tout vrai. Et chacun sait très bien que ce travail irrégulier, il se fait au vu et au su des pouvoirs publics. Moi, il n'y a pas de terme qui m'agace plus que le terme de clandestin. Rien de tout ça n'est clandestin. Et nous avons tous recueilli, et si ça vous amuse, je pourrais vous en raconter une ou deux, des dizaines d'anecdotes qui montrent bien que tout ça se passe au vu et au su des pouvoirs publics et avec leur complaisance.
You keep saying you got something for me, something you call love. But confess, you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking.
Allez, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Dans l'émission Les Oreilles Loin du Front, on va terminer cet entretien avec Emmanuel Terret. Et on va parler un petit peu de la situation aujourd'hui et d'un certain nombre de propositions, enfin d'aujourd'hui, de la campagne et d'un certain nombre de propositions qui avaient émergé durant la campagne.
Voilà, même vous avez participé en fait à l'initiative de l'autre campagne. On avait reçu un des initiateurs de l'autre campagne dans cette émission il y a quelques semaines. Et vous avez notamment présenté un certain nombre de propositions, 8, pour une politique alternative de l'immigration. Est-ce qu'on peut les évoquer en quelques minutes ?
Oui, si vous voulez. Il faut dire que ces propositions d'abord visait à répondre à cette question que j'ai évoquée tout à l'heure. Et vous, qu'est-ce que vous proposez ? Question qui nous a été constamment posée. Et à un moment donné, nous nous sommes dit à quelques-uns qu'il fallait quand même apporter un début de réponse. Alors, ces réponses, il faut distinguer le long terme du court terme. Bon, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. À long terme, notre perspective, c'est le retour à la liberté de circulation et d'établissement. Liberté qui doit être aménagée et organisée, comme le sont toutes les libertés, mais le principe de cette liberté nous semble être la perspective à long terme. Alors, bien entendu, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, parce qu'il y a toute une série de dispositifs à mettre en place, à la fois en ce qui concerne l'accueil des étrangers, précisément l'aménagement de cette liberté. Mais le fait de dire que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain n'empêche pas qu'il y a un pas qui peut être fait dès maintenant dans cette direction. Alors, pour le passé, ce que nous proposions, c'est la régularisation des sans-papiers. Parce qu'il n'y a pas de régularisation partielle, en réalité. Si on procède à des régularisations partielles, comme ça a été fait en 1997, en réalité, le marché du travail illégal continue à fonctionner. Les employeurs s'adressent de préférence à ceux qui sont restés dans l'illégalité. Ils en font venir d'autres, etc. Et par conséquent, toute régularisation partielle aboutit à la reconstitution de ce marché dans des délais très rapides. C'est ce qu'on a vu en 1997. Bon, ça, c'est pour le passé. Le futur, bon, je vais peut-être pas énumérer les 8 mesures parce qu'elles ne sont pas toutes de la même importance. Bon, la première, c'est quand même la dépénalisation du séjour irrégulier. Bon, il faut savoir que à l'heure actuelle, le séjour irrégulier est un délit, qu'il est passible d'un an de prison et de 3 750 € d'amende, et qu'à ce titre, il y a chaque année, pas nécessairement pour un an, mais pour plusieurs mois, de 3 à 5 000 sans-papiers dans les prisons françaises. Ça, c'est un premier point. Alors, le deuxième point, nous voulions l'attribution d'un caractère suspensif à tous les recours. Parce que, comme vous le savez, à l'heure actuelle, bon, dans la loi Sarkozy, les procédures d'expulsion ont été simplifiées et accélérées à cause de l'introduction de l'OQTF, obligation de quitter le territoire français, qui remplace deux documents qu'il y avait avant, avec un recours d'un mois. Et ce recours-là est suspensif. Mais c'est le seul. On a un mois pour faire recours devant le tribunal administratif, et ce recours-là est suspensif. Mais tous les autres recours ne le sont pas. Or, un recours qui n'est pas suspensif, c'est un recours qui ne sert à rien. Si vous êtes renvoyé chez vous, le fait que votre recours devant la cour d'appel administrative aboutisse au bout de 3 ans ne vous vaudra pas visa auprès du consulat pour revenir. Donc, attribution d'un caractère suspensif à tous les recours. Troisième mesure, fermeture des centres de rétention et des zones d'attente, parce qu'il existe dans le droit français, si on a besoin d'avoir les gens à disposition, une disposition qui s'appelle l'assignation à résidence et qui permet de maintenir les gens chez eux, quitte à ce qu'ils viennent se faire contrôler périodiquement au commissariat de police. Et par conséquent, il n'y a aucune raison de pratiquer ce qu'on appelle pudiquement la rétention et qui n'est rien d'autre que l'internement administratif. Bon, nous voulions l'abolition des conditions restrictives au regroupement familial, parce qu'elles sont discriminatoires. Le mariage des Français et la possibilité pour les Français de vivre en famille n'est soumise à aucune espèce de condition. Il n'y a pas de raison d'en imposer aux étrangers. Nous avions proposé la motivation de tous les refus de visa, parce qu'à l'heure actuelle, la décision de rejeter des visas est une décision régalienne, comme on dit. C'est-à-dire que, sauf un très petit nombre de cas, l'État n'a pas à justifier les refus de visa. Ce qui est évidemment la porte grande ouverte à l'arbitraire. Donc il faut obtenir la motivation des refus de visa de manière à ce que ces refus puissent être contestés devant les juridictions administratives. Nous avions proposé la généralisation de la carte de 10 ans. Parce que les cartes temporaires, en réalité, vont exactement à l'encontre du but qu'elles se proposent. Théoriquement, les gens qui obtiennent des cartes temporaires, c'est pour qu'ils s'intègrent à la société française. Bon, avec une carte d'un an, allez signer un bail de location de 3 ans. Vous n'avez aucune chance. Allez obtenir un CDI. Vous n'avez aucune espèce de chance. Il y a même des banques qui vous refusent l'ouverture d'un compte avec la carte d'un an. Donc, généralisation de la carte de 10 ans. Bon, je ne sais pas combien j'en ai énuméré. Je cite la dernière, quand même, qui avait son sens. Maintenant, les choses sont un peu différentes. Nous avions proposé de retirer la gestion de l'immigration au ministère de l'Intérieur et de confier l'ensemble des problèmes d'entrée au ministère des Affaires étrangères, et les autres problèmes, pour autant qu'il y en a, de les répartir entre les différents ministères. Parce que le rôle du ministère de l'Intérieur dans cette affaire signifiait, symbolisait l'idée que l'étranger, au total, et d'abord, c'est une menace, c'est un danger, et que par conséquent, c'est un problème de police pour la société française. Alors maintenant, nous avons affaire à ce ministère de l'immigration et de l'identité nationale, où les choses sont encore bien plus claires, parce que l'injonction veut dire l'immigration, c'est un danger pour l'identité nationale, et par conséquent, nous voulons l'endiguer. Et je pense que ce ministère sera une annexe de la place Beauvau. Nous verrons bien si vos prédictions en matière ministérielle se réaliseront. Mais je crois que dans ce domaine, on peut s'attendre au pire.
Mais justement, neuvième proposition, vous nous citiez hors antenne le deuxième article de la Déclaration des droits de l'homme et vous argumentiez de manière très véhémente. Donc je vous laisse la parole pour le redonner et pour... pour dire
non, mais le problème est de savoir que faire. Bon, sur le plan politique, chacun peut avoir son opinion. Je pense quand même que un de nos objectifs, je ne sais pas s'il sera atteint, c'est d'essayer d'empêcher que l'UMP ait la majorité absolue à l'Assemblée nationale, de manière à ce qu'il y ait quand même un début de contre-pouvoir qui se construise. Ça dépend des votes des uns et des autres. Mais il y a un autre point que je voudrais souligner. Tout à l'heure, en parlant de l'action de RESF, on a mis en évidence le fait que déjà, il y a un certain nombre de manifestations de désobéissance civile sur notre territoire. Ce qui s'est passé autour de la famille Rabat est clairement un acte de désobéissance civile. Il faut s'en féliciter et il faut dire à tous nos compatriotes que l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, laquelle est reprise dans le préambule de la Constitution et à valeur constitutionnelle dans notre pays, cet article 2 cite 4 droits fondamentaux que possèdent tous les hommes, non pas seulement les citoyens, mais tous les hommes. Alors vous allez voir que ces 4 droits portent la marque de leur époque, mais ils sont intéressants à rappeler. Liberté, sûreté, propriété, et le dernier, c'est la résistance à l'oppression. La résistance à l'oppression fait partie de nos droits fondamentaux. Et c'est à nous de décider s'il y a oppression et comment nous allons lui résister. La résistance à l'oppression ne suffit pas nécessairement en résistance violente, mais une résistance non violente est parfaitement possible. Et j'en prends un exemple très simple. Quand un certain nombre de citoyens français se sont allongés devant les voitures de la police rue Rampal pour empêcher l'arrestation d'un grand-père en situation irrégulière qui venait chercher sa petite-fille, eh bien, ces citoyens ont usé de ce droit qu'ils auraient reconnu par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme, à savoir la résistance à l'oppression. Non seulement la résistance à l'oppression est un droit, mais dans un certain nombre de cas, elle est un devoir. C'est-à-dire que quand nous avons affaire à des situations que nous estimons inhumaines, que nous estimons attentatoires aux droits et à la dignité des personnes, c'est un devoir de résister. Et je reviens toujours à cette période parce qu'elle était intéressante, mais on pourrait évoquer aussi la guerre d'Algérie. Un certain nombre de gens qui ont assisté passivement à de telles actions inhumaines ont ensuite été condamnés par les tribunaux pour non-assistance à personne en danger, etc. etc. Donc nous avons à la fois le droit et le devoir de résister à ces formes d'oppression.
Voilà, alors l'heure arrive à sa fin. On aurait pu durer bien plus longtemps puisqu'il y a encore plein de sujets qu'on voulait aborder avec vous, mais il faudra revenir pour faire la suite de cette émission. Voilà, merci beaucoup. Voilà, c'était ce soir Les Oreilles Loin du Front. On était donc content de recevoir Emmanuel Terret. D'habitude, on est debout en manifestation, on boit pas un coup et on parle beaucoup moins longtemps. Alors, quand on est à Dumont, on fait de l'ouvrage ce soir à la technique. Il y avait celui qui vient piquer le travail des réalisateurs, c'était Guillaume Yom. Et puis pour les blagues, il y avait celui qui était bien content, si j'ai bien compris, bien content de ne pas avoir le droit de vote ce week-end. C'était Cédric. Et puis un micro dans une main, une bière dans l'autre, il y avait Juliette qui se demande si des fois faudrait quand même pas mettre un minimum de keynésianisme. Et puis, la vie n'est qu'un jeu pour elle, mais pourtant ne crois pas, ô Manuela, que tu peux vivre sans amour. Nous, vous pouvez retrouver tout ça, cette émission, les chroniques, les précédentes et les suivantes sur le site des Oreilles Loin du Front, loldf.org. Et puis la semaine prochaine, on reçoit Bernard Pudal et
parler du PC.
Ouais.
On rit pas, on a dit.
Autant pour nous. Allez, il est l'heure, on vous abandonne dans les bras d'Écho du Capricorne, puisque voici Claudia, que ce soir j'ai de la fièvre et que toi tu meurs de froid.